France Culture.
18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Donc bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les États-Unis vont-ils intervenir en Iran en soutien à la contestation populaire contre le régime? Plusieurs options militaires auraient été présentées à Donald Trump alors que les manifestations depuis deux semaines ont fait au moins 192 morts d'après une ONG. Des rivières cristallines devenues orange vif en Alaska, c'est l'un des effets dévastateurs du dérèglement climatique. 200 cours d'eau sont affectés par la fonte du permafrost. Et puis nous reviendrons sur l'opération Bruxelles, menée par quelques 1500 médecins libéraux en grève depuis une semaine. Ils s'exilent temporairement en Belgique. Les manifestations en Iran depuis deux semaines ont fait près de 200 morts, d'après l'ONG Iran Human Rights, qui prévient que ce bilan pourrait être beaucoup plus lourd, Internet et les moyens de communication étant coupés dans le pays depuis jeudi. De nouvelles manifestations ont encore eu lieu hier soir, notamment à Téhéran, et la répression des autorités face à cette vague de contestation populaire est de plus en plus féroce. La police iranienne a ainsi annoncé d'importantes arrestations et le président iranien Massoud Pezeshkian accuse les États-Unis de fomenter la révolte, alors que Donald Trump s'est dit prêt à aider les manifestants. Or, on apprend aujourd'hui, Gwendal Lavina, que des options d'intervention militaire, y compris armée, ont été présentées au président américain.
Depuis le début de la contestation, des officiers américains élaborent différents scénarios à proposer au président. Selon le Wall Street Journal et le New York Times qui révèlent l'information, Donald Trump en a pris connaissance ces derniers jours lorsqu'il commençait à menacer publiquement l'Iran d'une intervention américaine. Parmi les options, des frappes aériennes de grande ampleur contre de multiples sites militaires partout en Iran, sur certains endroits stratégiques de Téhéran, ou encore une attaque informatique visant à paralyser les systèmes iraniens. Selon des officiels américains cité par la presse, le président n'a pas encore pris de décision et surtout l'élaboration de tels scénarios ne signifie pas forcément qu'une attaque est imminente. Aucun équipement ou personnel militaire n'a d'ailleurs été mobilisé pour le moment. La crainte de voir une éventuelle action militaire américaine redonner de la légitimité au pouvoir iranien est aussi bien réelle au Pentagone. Les multiples menaces de Donald Trump ces derniers jours provoquent en tout cas la colère de Téhéran. Le président du Parlement iranien prévient qu'en cas de frappe, des représailles viseront des sites de l'armée américaine ainsi que le transport maritime des États-Unis.
Gwendal Lavina, correspondant de France Culture à New York, et Benjamin Netanyahou dit espérer que l'Iran sera bientôt délivré du joug de la tyrannie. Le Premier ministre israélien condamne ce qu'il qualifie de massacre de masse contre des civils. Israël, qui a émis aujourd'hui un nouvel ordre d'évacuation dans un village du sud Liban avant des frappes contre le Hezbollah, accusant le mouvement pro-iranien de rétablir ses activités dans la région. L'agence libanaise d'information fait état d'une dizaine de frappes survenues dans le sud Liban. Une semaine après l'opération américaine au Venezuela, Donald Trump durcit un peu plus le ton face à Cuba, exhortant les dirigeants cubains à trouver un accord avec Washington avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il écrit en lettres majuscules sur son réseau social Truth Social, sans quoi il n'y aura pas de pétrole ni d'argent pour Cuba, menace-t-il, du pétrole fourni en majorité jusqu'ici par le Venezuela. Personne ne nous dicte quoi faire, rétorque ce soir le président cubain. Un an après les incendies géants survenus à Los Angeles qui avaient fait une trentaine de morts et dévasté 16 000 structures, beaucoup des 100 000 Californiens évacués ne sont toujours pas revenus, par choix ou par manque de moyens. D'autres préfèrent tout reconstruire, comme Karen Martinez dans le quartier de Palisade avec des matériaux plus résistants aux incendies. Loïc Piala.
Karen Martinez propose de faire la visite. Elle suit les plans qu'elle a dessinés sur les fondations.
Là, on a la salle de bain.
Cette habitante de Pacific Palisades est tous les jours sur le chantier.
Oui, je suis très impliquée. C'est thérapeutique pour moi.
Il y a un an, sa maison brûlait comme des dizaines d'autres de ce quartier au pied des collines avec vue sur le Pacifique. La reconstruction a démarré. Début novembre, des murs sont déjà dressés. Un ouvrier découpe facilement un bloc avec une simple scie électrique. Ce n'est pas un parpaing, mais un mélange de polystyrène et de ciment, le matériau léger choisi par Karen pour reconstruire. Résistant au feu, aux termites, aux vents violents, offrant une bonne isolation, le matériau a gagné le surnom de Perfect Block, le bloc parfait.
En fait, on verse le béton et on place les barres d'armature à l'intérieur du bloc. C'est ça qui donne de la force au mur. Tout le bois que vous voyez là va disparaître. Il n'y aura pas de bois dans la maison. Même pour les cloisons, je n'utiliserai pas de papier parce que le papier brûle.
Une vingtaine de voisins ont décidé d'imiter Karen, dont Tom, en bas de la rue.
Il y a deux ans, mon gendre m'a demandé si ça pouvait brûler ici. Je lui ai répondu que ce n'était pas une question de si, mais de quand. C'est arrivé une fois, ça peut recommencer. Mais cette fois, il ne nous arrivera rien.
Karen espère emménager dès cet été. Avec ce matériau, elle pourrait obtenir 50% de réduction sur son assurance incendie.
Le reportage de Loïc Piala, c'est une autre conséquence du dérèglement climatique. Plus de 200 rivières sont récemment devenues oranges en Alaska en raison de la fonte du permafrost, un phénomène observé pour la première fois il y a 7 ans et qui s'accentue ces dernières années tout au long de la chaîne de montagnes Brooks au nord-ouest de la région américaine. Une teinte orange qui s'explique par la libération de métaux contenus dans le permafrost, un effet alarmant et un danger pour la faune et la flore. Roman Salch.
Une couleur orange rouille dans un paysage de montagne partiellement enneigé. La teinte de la rivière récemment photographiée par des scientifiques au nord-ouest de l'Alaska impressionne. Et déjà l'an dernier, des chercheurs de l'Université de Californie alertaient dans une vidéo sur ce phénomène.
Nous avons d'abord observé un changement de couleur d'un cours d'eau sur un site que nous surveillons. Nous étions là-bas en 2017, tout était super, nous étions en train de collecter des poissons, des macro-invertébrés. Et puis nous sommes revenus en 2018 et toute la rivière était devenue orange.
Ces sols arctiques contiennent des métaux comme du fer. En fondant, ils entrent en contact avec l'eau et l'air. Florent Dominé, directeur de recherche au CNRS, il étudie principalement les effets climatiques sur le permafrost.
Un des facteurs essentiels, c'est qu'il y ait de la pyrite, en fait, des sulfures qui soient oxydés, du fer qui soit oxydé, qui va donner cette teinte rouge.
La pyrite, un minéral jaune doré qui contient des métaux lourds comme du nickel. Les rivières deviennent alors acides, un mélange toxique pour les poissons.
Il y a une espèce de saumon là, qui est très fréquente dans cette rivière, qui remonte cette rivière pour aller pondre. Là, elle ne peut plus remonter, quoi, parce qu'en fait, la composition de l'eau est plus favorable d'abord. On voit rien, surtout c'est une eau qui est toxique. En plus, si on a une diminution du pH, donc une acidification de l'eau, ça peut tuer toute la végétation à l'intérieur de la rivière et sur les bords de la rivière. Il y a de la faune aussi qui se nourrit principalement des saumons, comme par exemple les grizzlies. Ben, ils n'ont plus de saumons, ils sont affamés, ils se reproduisent pas. Dans le meilleur des cas, ils se contentent juste de plus se reproduire, et dans le pire des cas, ils meurent.
En 2025, l'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée, conduisant à la fonte du permafrost, qui libère également de grandes quantités de carbone.
Un barrage filtrant à l'entrée du port du Havre. Action des agriculteurs de Seine-Maritime aujourd'hui qui entendent bloquer les camions pour contrôler leurs marchandises importées en France. En réaction au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, validé vendredi par la majorité des 27, traité qui doit être voté encore par le Parlement européen. Un traité auquel s'oppose la France et qui vaut au gouvernement d'être sous la menace de deux motions de censure à l'Assemblée, déposées par la France insoumise et le Rassemblement national. Des motions de censure jugées inappropriées par François Hollande. Le député socialiste et ancien président ne les votera pas. De même, la possible dissolution agitée par l'exécutif n'a aucun sens, dit-il sur France Inter, encourageant le chef du gouvernement à faire usage du 49-3 pour faire adopter le budget. Le texte fait son retour dans l'hémicycle mardi. Et face au blocage, les groupes parlementaires sont une nouvelle fois invités à Bercy demain par la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Le gouvernement, qui doit aussi faire face à la grève des médecins libéraux depuis une semaine, dont le point d'orgue est attendu demain, avec des fermetures de blocs et des réductions d'activité dans de nombreuses cliniques privées. Car les médecins libéraux et spécialistes partent à Bruxelles, un exil belge temporaire, pour symboliser leur malaise de travailler désormais en France. Victor Dolande, une trentaine de bus ont pris tout à l'heure le départ depuis la Porte Dauphine à Paris.
Oui, thermos de café et sandwich avant de prendre la route pour Bruxelles. Un peu plus de 1500 chirurgiens, gynécologues, dermatologues et autres spécialistes ont choisi de quitter la France pour 4 jours. Partir pour éviter d'être réquisitionnés par les agences régionales de santé comme la loi le prévoit lors des grèves de soignants pour assurer une continuité des soins. Philippe Cuc est président de l'Union des chirurgiens de France.
Aujourd'hui, nous partons en exil symbolique pour dire au Premier ministre, vous avez là des gens qui sont responsables, qui travaillent 60 heures par semaine, qui ont des métiers pénibles, mais qui ont des difficultés aujourd'hui avec la sécurité sociale, avec les complémentaires santé, et nous voulons trouver des solutions. Recevez-nous pour discuter avec nous.
Cet exil massif de médecins va forcément avoir des conséquences dans les cliniques privées ces prochains jours. Lamine Garbi est président de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Plus de 100 000 interventions ont été déprogrammées sur 3 jours. Donc effectivement, on s'attend à des perturbations. Le bloc opératoire sera fermé, mais il n'y a pas que les blocs opératoires. Il y a les services d'urgence qui sont également en grève. C'est aussi le but de la grève, c'est de montrer que le privé existe et que sans nous, le système de santé ne fonctionne pas.
Pour tenter de limiter les effets de cette mobilisation inédite, les préfets ont déjà réquisitionné des centaines de médecins, des réquisitions considérées comme abusives par l'ensemble des syndicats.
Météo de votre lundi avec de la pluie attendue sur la moitié nord et de belles éclaircies sur la moitié sud. Les températures seront plus douces avec 3 à 10 degrés en moyenne le matin, 5 à 15 degrés l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau et Anthony Thomasson à la technique.